La grandeur est une expérience passagère. Jamais elle n'est stable. Elle dépend en partie de l'imagination humaine qui crée les mythes. La personne qui connaît la grandeur doit percevoir le mythe qui l'entoure. Elle doit se montrer puissamment ironique. Ainsi, elle se garde de croire en sa propre prétention. En étant ironique, elle peut se mouvoir librement en elle-même. Sans cette qualité, même une grandeur occasionnelle peut détruire un homme. Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulane. Dans la salle à manger de la grande demeure d'Arakin, on avait allumé les lampes à suspenseurs pour lutter contre la venue prématurée du soir. Leur clarté jaune révélait la noire tête de taureau aux cornes sanglantes et l'éclat sourd du portrait à l'huile du vieux duc. Sous ses talismans, le lin blanc semblait briller des reflets de l'argenterie des Atréides que l'on avait soigneusement disposés en ordre tout au long de la grande table. Les couverts formaient de multiples archipels auprès des verres de cristal, devant les lourdes chaises de bois. Le traditionnel chandelier central n'était pas allumé et sa chaîne se perdait dans les ombres du plafond où était dissimulé le mécanisme du goutte-poison. Immobile sur le seuil, le duc songeait aux goutte-poison et à ce qu'il signifiait dans leur société. Tout un programme. On peut nous définir par notre langage, par les délinéations précises et délicates que nous réservons aux divers moyens d'administrer une mort traîtresse. Quelqu'un essaierait-il le chaomurki ce soir, le poison dans notre boisson? Ou bien le chaumas dans notre nourriture? Il secoua la tête. Auprès de chaque assiette était disposé un flacon d'eau. Sur toute la table, songea le duc, il y avait assez d'eau pour faire vivre une famille pauvre d'Arakis pendant plus d'une année. Près de la porte se trouvaient des bassins ornés de tuiles jaunes et vertes. Chacun d'eux était muni d'un jeu de torchons. La coutume voulait, leur avait expliqué la gouvernante, que les invités, au moment où ils entraient, plongent solennellement les mains dans un bassin, répandent de l'eau sur le sol, sèchent leurs mains à un torchon avant de le jeter dans la flaque. Après le repas, les mendiants assemblés dehors pouvaient recueillir l'eau en essorant les torchons. Typique d'un fief Harkonnen, se dit le duc. Toutes les dégradations spirituelles concevables. Il prit une profonde inspiration. La fureur tordait son estomac. « Que cette coutume cesse dès maintenant » gronda-t-il. Il aperçut une des servantes, vieille, difforme, l'une de celles que la gouvernante avait recommandées. Elle venait de sortir de la cuisine et passait devant lui. Il leva la main. La femme sortit de l'ombre et fit le tour de la table pour s'approcher. Il remarqua son visage tanné et ses yeux bleus, noyés dans le bleu. « Monseigneur désir ?» Elle s'adressait à lui la tête inclinée. Il fit un geste. « Faites ôter ses bassins et ses torchons. » « Mais, noble nez !» Elle releva la tête et le regarda, bouche bée. « Je connais la coutume » aboya-t-il. « Emmenez ses bassins devant la porte de façade. Pendant tout le repas et jusqu'à ce que nous ayons fini, chaque mendiant pourra prendre une tasse d'eau, compris ?» Des émotions mêlées pouvaient se lire sur le visage de cuir de la femme. Désespoir, colère. Le duc devina tout à coup qu'elle avait peut-être eu l'intention de se réserver les torchons et de tirer quelques pièces des malheureux qui attendaient dehors. Peut-être était-ce également la coutume. Le visage de Leto s'assombrit et il gronda. « Je vais poster un garde afin que mes ordres soient exécutés à la lettre. » Il fit demi-tour et s'engagea dans le passage qui menait au grand hall. Des souvenirs roulaient dans son esprit. Murmures de vieilles femmes édentées. Il se rappelait l'eau, les étendues d'eau, de vagues. Il se rappelait les champs d'herbe et non de sable. Et tous les étés qui avaient été balayés comme des feuilles dans la tempête. Tout avait été balayé. « Je me fais vieux, » songea-t-il. J'ai senti le contact froid de ma mort à venir. Et où l'ai-je senti? Dans la rapacité d'une vieille femme. Dans le grand hall, Jessica se trouvait au centre d'un groupe rassemblé devant la cheminée où crépitait un grand feu. Les reflets oranges des flammes couraient sur les dentelles, les riches étoffes, les joyaux. Le duc reconnut dans le groupe un confectionneur de distis de Carthage, un importateur de matériel électronique, un convoyeur d'eau dont la demeure estivale était située à proximité de l'usine polaire, un représentant de la banque de la guilde, mince, l'air distant, un négociant en pièces détachées de matériel d'épissage, une femme au visage maigre et dur, dont le service d'escorte à l'usage des visiteurs extraplanétaires était réputé servir de couverture à diverses opérations d'espionnage, de chantage et de contrebande. La plupart des autres femmes présentes semblaient appartenir à un type précis. Elles étaient décoratives, habillées avec recherche, et il émanait d'elles un mélange étrange de sensualité et de vertu intouchable. Même si elle n'avait pas été l'hôtesse, songea le duc, Jessica aurait dominé ce groupe. Elle ne portait aucun bijou et elle était vêtue de couleurs chaudes. Sa longue robe avait presque l'éclat du feu et un ruban brun comme la terre enserrait ses cheveux de bronze. Il comprit qu'elle voulait ainsi le réprimer subtilement pour la froideur de son attitude. Elle savait très bien qu'il l'aimait ainsi vêtue, qu'il la voyait comme un éventail de couleurs vives. Duncan Idaho se tenait à l'écart, en uniforme scintillant, le visage impassible, ses cheveux noirs et bouclés peignés avec soin. Il avait quitté les Fremen sur l'ordre d'Awat. Sous le prétexte de la garder, tu maintiendras une constante surveillance sur la personne de Dame Jessica. Le regard du duc fit le tour de la salle. Paul se trouvait dans un coin, entouré d'un groupe avide de jeunes gens appartenant à la richesse d'Arakin. Il y avait aussi parmi eux trois officiers de la maison. L'attention du duc s'attacha tout particulièrement aux jeunes filles. Un héritier ducal était un beau parti. Mais apparemment, Paul les considérait toutes avec la même et noble réserve. Il portera bien le titre, se dit Leto. Puis il réalisa avec un frisson glacé que c'était encore là une pensée de mort. À cet instant, Paul aperçut son père, immobile sur le seuil, et il évita son regard. Il considéra tous les invités, toutes ses mains rutilantes de bijoux qui tenaient des verres, dont le contenu était analysé par de multiples goûteurs automatiques. Tous ces visages bavards l'écœuraient soudain. Ce n'étaient que des masques dérisoires appliqués sur des pensées infectes, et les voix essayaient en vain de dominer le profond silence qui régnait dans chaque poitrine. « Je suis d'humeur amère », pensa Paul, et il se demanda ce que Gurney pourrait bien en dire. Il connaissait l'origine de cette amertume. Il avait refusé de participer à cette réception, mais son père s'était montré ferme. Tu as une position à tenir. Tu es en âge de le faire. Tu es presque un homme. Paul observa son père, qui maintenant s'avançait dans la salle tout en l'inspectant, et se dirigeait vers le groupe assemblé autour de Dame Jessica. Au moment où Leto s'approchait, le convoyeur d'eau déclarait « Est-il vrai que le duc va établir le contrôle climatique ?»«
Mes projets ne vont pas jusque-là, monsieur, » dit la voix du duc derrière l'homme.
Ce dernier se retourna. Son visage était rond, très bronzé.
« Ah, duc, » dit-il, « vous nous manquiez. »
Leto regarda Jessica.
« Il fallait qu'une chose soit faite, » dit-il.
Puis il se tourna de nouveau vers le convoyeur d'eau et expliqua ce qu'il avait ordonné quant au bassin. Il ajouta
« Quant à moi, cette coutume prend fin immédiatement. »
« C'est un ordre ducal, monseigneur ?»«
Je laisse votre conscience en juger, » dit le duc.
Puis il se détourna et vit que Kynes s'approchait du groupe.
« Je pense que c'est là un geste très généreux, » dit une des femmes. « Donner comme cela de l'eau au... »
Quelqu'un la fit taire. Le regard du duc se posa sur Kynes.
Il remarqua que le planétologiste portait un uniforme démodé avec des épaulettes d'administrateur impérial. Un minuscule insigne doré était fixé à son col.
« Les paroles du duc impliquent-elles une critique de nos coutumes ?»
fit la voix courroucée du convoyeur d'eau.
« Cette coutume est modifiée, » dit Leto.
Il inclina la tête à l'adresse de Kynes, remarqua le froncement de sourcils de Jessica et pensa « Un froncement de sourcils n'est pas tout, mais cela va accroître les rumeurs d'une friction entre nous. »
« Si le duc le permet, » reprit le convoyeur, « j'aimerais revenir un peu sur cette question des coutumes. »
Leto perçut l'onctuosité soudaine dans la voix de l'homme, le silence vigilant du groupe et toutes les têtes qui se tournaient vers eux maintenant, dans la salle.
« Ne sera-t-il pas bientôt temps de dîner ?» demanda Jessica.
« Notre invité nous a posé une question, » dit Leto.
Son regard ne quittait pas le convoyeur d'eau, et il voyait là un homme au visage rond avec de grands yeux et des lèvres épaisses. Et il se rappelait le mémorandum d'Awat.
« Ce convoyeur d'eau est un homme à surveiller. Souvenez-vous de son nom. Lingar Byut. Les Harkonnen l'ont utilisé, mais sans jamais vraiment le contrôler. »
« Les coutumes attachées à l'eau sont fort intéressantes, »
dit Byut avec un sourire.
Je suis curieux de savoir ce que vous avez l'intention de faire à propos de la serre qui fait partie de cette demeure. Entendez-vous la faire admirer longtemps au peuple, monseigneur ?
Leto réprima sa colère tout en dévisageant l'homme. Les pensées jaillissaient dans son esprit. Celui-là osait le défier dans le castel ducal. Et la signature de Byut figurait au bas d'un contrat d'allégeance.
Bien sûr. L'homme était conscient de sa puissance personnelle. L'eau, sur ce monde, impliquait la puissance. Par exemple, si tous les points d'eau venaient à sauter à un signal donné, l'homme semblait capable d'un tel acte, qui pourrait signifier la fin d'Arrakis.
Telle devait être la menace qu'il avait laissée peser sur les Harkonnen.
« Monseigneur le duc et moi-même avons des projets pour cette serre, » intervint Jessica.
Elle sourit à Leto.
Nous entendons la maintenir, bien sûr, mais avec l'approbation du peuple d'Arrakis. Notre rêve est de voir un jour le climat de ce monde modifié, afin de permettre la culture des plantes de notre serre n'importe où à l'extérieur.
Béni soit-elle, se dit Leto.
Et que notre convoyeur d'eau rumine là-dessus.
Votre intérêt pour l'eau et le contrôle climatique est évident, dit-il. Vous devriez orienter différemment vos intérêts, croyez-moi. Un jour viendra où l'eau ne sera plus une denrée aussi précieuse pour Arrakis.
Et il songea, il faut qu'Awat redouble ses efforts pour noyauter cette organisation de Byut. Et nous devrons immédiatement veiller sur les points d'eau. Personne ne peut me menacer de la sorte.
Byut hocha la tête sans cesser de sourire. Un rêve agréable, monseigneur.
Et il fit un pas en arrière.
Leto surprit alors l'expression de Kynes. Le planétologiste regardait Jessica, et il semblait transfiguré,
comme un homme amoureux, ou pris d'une transe religieuse.
En cet instant, les mots de la prophétie occupaient tout l'esprit de Kynes.
Et ils partageront votre rêve le plus précieux. Il s'adressa à Jessica.
« Amenez-vous le court chemin ?»«
Ah, docteur Kynes !» intervint le convoyeur d'eau. « Vous êtes venu. Vous avez abandonné vos hordes de Fremen, comme c'est aimable à vous. »
Kynes posa sur lui un regard inscrutable.
« On dit dans le désert que la possession de l'eau en grande quantité peut conduire un homme à une fatale négligence. »«
Ils ont nombre de dictons étranges dans le désert, »
dit Byut. Mais sa voix trahissait son trouble.
Jessica s'approcha de Leto et glissa sa main sous son bras, cherchant un instant de calme.
Kynes avait dit « le court chemin ».
Dans la langue ancienne, cela se traduisait par « quisatz aderak ». L'étrange question du planétologiste était passée inaperçue, et à présent,
Kynes se penchait vers l'une des femmes de la suite, prêtant l'oreille à quelques badinages murmurés. Le Kwisatz Haderach, la Missionaria Protectiva aurait-elle donc implanté ici cette légende aussi? À cette pensée, elle sentit se raviver l'espoir secret qu'elle nourrissait pour Paul. Il pourrait être le Kwisatz Haderach. Oui, il pourrait l'être.